Bonsoir tout le monde si vous nous écoutez en direct, ou bonjour tout le monde si vous écoutez la rediffusion du matin ou du midi. Des vaches écossaises dans les tourbières corréziennes, c'est le projet de Jacques et Sabine Virol, éleveurs sur la commune de Perret-Bel-Air. Pour créer ce cheptel de vaches de race Highland Cattle, qu'on peut traduire tout simplement par bovins des Highlands, une campagne de financement participatif est en cours. Pour parler de ces sujets, nous n'avons pas la chance d'avoir autour de la table une vache de race Highland Cattle. Nous recevons par contre bien évidemment Jacques et Sabine Virol. Jacques, Sabine, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour.
Merci, ça va bien.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune de Perret-Bel-Air ?
Donc, la commune de Perret-Bel-Air est à 15 km de Meymac. On est une petite commune de 90 habitants. Et elle est à la cassure du plateau, entre Aigle-Thoron et Meymac. Quoi.
Et on est à quelle altitude à Perret-Bel-Air ?
On va partir de 650 à 900.
Beau dénivelé.
Ouais.
Après nous avoir présenté rapidement la commune, est-ce qu'on peut parler de votre exploitation ou de votre ferme ? Vous préférez exploitation, ferme ?
N'importe, au choix.
Au choix.
Mais plutôt ferme, mais bon.
Vous êtes installé en 2006.
Oui, tout à fait.
Un peu plus de 10 ans.
Ouais, j'ai repris l'exploitation familiale en 2006. Et en Vaudelet-sous-la-Mer, Limousine, Vaudelet-sous-la-Mer à 100%. Et donc je suis monté de 25 vaches, donc je suis remonté à 50 vaches. Quoi.
Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi un veau de lait sous la mer ?
Alors le veau de lait sous la mer, c'est un veau qui ne boit que du lait de sa mère, donc il reste la journée dans son box, et il faut le faire téter matin et soir. Il est élevé qu'avec du lait, quoi, naturel de sa mère.
C'est quoi l'intérêt
de L'intérêt de faire du veau de lait,
oui.
C'est, on va dire, c'est une tradition, ça s'est toujours fait. Et dans le grand sud-ouest, on va dire que c'est une production emblématique. Quoi.
Et ça change beaucoup la qualité gustative du veau ?
Tout à fait, oui. Déjà, c'est de la viande blanche, quoi. Donc, et il est élevé naturellement. Quoi.
Vous êtes donc producteur de veau de lait sous la mer, du veau de lait sous la mer labellisé Label Rouge. Est-ce qu'on peut rappeler aussi, parce qu'il y a une multitude de labels maintenant, ce qu'est le Label Rouge ?
Alors, le Label Rouge, c'est bon, un label... Avec un cahier des charges, quoi.
Et alors, donc, c'est quoi ce cahier des charges ?
Faut que ce soit une race à viande, il nourrit que au lait. On a droit à du lait en poudre en complément avec une certaine quantité autorisée. Et il faut qu'il soit vraiment élevé que au pied de la vache, quoi.
Ça, c'est pour le label rouge. Au niveau de l'exploitation en général, est-ce que vous avez un label agriculture biologique, un label écologique ?
Non, pas du tout. Non.
C'est un choix ?
C'est trop un choix, ouais.
Trop de contraintes ?
Un petit peu, ouais. On est presque bio, mais voilà, j'ai pas fait le saut, j'ai pas trop la philosophie, quoi. Je préfère être raisonné.
Oui, vous mettez en avant quand même une production naturelle et raisonnée.
Ouais, voilà.
Vous produisez vous-même vos fourrages ?
Fourrages, céréales. Donc on achète beaucoup, un peu de compléments azotés, parce que j'en ai limite, au niveau de l'alimentation des mères. Mais sinon, on est assez autonome au niveau de l'exploitation. Quoi.
Vous l'expliquez, vous avez repris la ferme de vos parents, Oscar et Gilberte, en 2006, suite à leur retraite. Qu'est-ce qui vous a motivé pour reprendre la ferme familiale quand on entend régulièrement la crise que subit le monde agricole ?
Oui. Ce qu'il y a, c'est que je suis tombé petit. Quand j'étais tout petit, je suis tombé dedans, quoi, et je voulais pas que ça s'arrête, quoi. C'était la continuité. Je voyais pas la ferme sans vache, quoi.
C'était pour pérenniser l'élevage mis en place par
ouais,
vos parents.
Tout à fait, ouais.
La ferme existe depuis vos parents, vos grands-parents.
Grands-parents même. Ouais.
C'est donc une ferme familiale.
Oui.
Vous mettez aussi en avant le maintien du savoir-faire. Vous étiez donc à la ferme assez jeune. Vous avez donc vu évoluer les pratiques
tout à fait, ouais.
Au sein de la ferme. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les différentes évolutions que vous avez vues entre votre enfance et aujourd'hui ?
On a vu en évolution, c'est surtout la mécanisation. Quoi. Il y a eu une évolution phénoménale en 30 ans. Quoi. Du travail très très manuel, on est devenu un conducteur de tracteur. Quoi.
Vous êtes
après
quand même...
Au niveau de l'élevage, ça, c'est toujours pareil. Quoi. Le veau de lait, il faut le faire de la même façon. Quoi. Même si des normes nous ont fait évoluer, dans le bon sens d'ailleurs.
C'est-à-dire
Mais avant, ils étaient attachés, pratiquement dans le noir. Maintenant, ils sont en box de casse collective, sans museau, sans rien. Et c'était aussi bien. C'est aussi bien, quoi.
Pour une fois, on entend un éleveur qui dit les normes.
Parce que quand on fait quelque chose, on sait ce qu'on a, comment on le fait. Et quand il faut modifier les pratiques, c'est compliqué, quoi. Ça fait peur. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement, les différents sites de votre exploitation ?
Donc l'exploitation est dans le bourg de Péribélaire. Je loue du terrain à 6 km de Péribélaire, voilà, une trentaine d'hectares sur deux sites, quoi, vraiment.
Alors est-ce que les terrains que vous louez, cette trentaine d'hectares, c'est des terrains qui sont homogènes ou c'est des terrains qui sont très différents les uns des autres ?
Non, ils sont assez homogènes. Et déjà, c'est d'un seul tenant. Il y a l'eau à volonté, il y a des prairies de fauche, du pâturage, donc c'est vraiment très intéressant. Et après, donc, sur le bourg, c'est un parcellaire qui est très très morcelé, c'est des petites parcelles. Pendant mon installation, j'ai fait des défriches pour mettre en culture, la restauration de vieux packages. Et du coup, il y a entre 25 et 30 hectares de tourbières qui ont été restaurés en parallèle, quoi.
Les tourbières, c'est quelque chose d'important dans votre exploitation. C'est aussi quelque chose d'important pour vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à la préservation des tourbières ?
Mais là, l'aspect, c'est joli. Et puis, elles sont là, quoi. Donc, faut les utiliser, quoi. Faut arrêter. Ça a été abandonné pendant des années parce que c'était peu productif. Et puis, bon, il y a eu de l'exode rural aussi. Après, on avait fait, pendant des générations, des prairies artificielles. Donc ces parcelles ont été complètement délaissées et ça s'est embroussaillé, quoi. Et du coup, comme il y a eu une dynamique aussi au niveau du PNR, du Conservatoire des espaces naturels, pour restaurer justement ces parcelles, donc on a tous travaillé ensemble pour réaliser ça, quoi.
On va en parler justement. À quel moment vous avez décidé d'élaguer et de restaurer ces tourbières ?
Alors au départ, quand je me suis installé en 2006, ces tourbières sont en site Natura 2000. Donc j'avais entendu un peu tous les sons de cloche. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Enfin, ça faisait peur.
En général, les sites Natura 2000 ont plutôt une mauvaise réputation du côté des éleveurs.
Mauvaise réputation, parce que je pense que ça a été mal. Il n'y a pas eu de dialogue au départ. Enfin, je pense que ça a été plus ou moins imposé. Et du coup, la Chambre d'agriculture m'a dit, mais il y a le Conservatoire des espaces naturels qui veulent faire un réseau zone humide. Donc j'ai adhéré tout de suite en 2006. Et de fil en aiguille, par dialogue sur le terrain. De regarder ce qui pouvait se faire et pas se faire, ce qui était bien et pas bien, chacun en donnant ses avis a permis ça, quoi.
Et vous avez donc travaillé avec le Conservatoire des espaces naturels en Limousin.
Oui.
Comment ça s'est passé, la rencontre ?
Ça s'est très bien passé dès le départ. Il y a vraiment eu un dialogue, quoi, constructif dans les deux sens, quoi. Parce que moi j'avais des... Enfin, ils nous disaient, faut faire ci, oui mais je peux pas le faire parce que c'est comme ça. Et de fil en aiguille, ça a été très très... Eux, ils ont fait un diagnostic, et après, on discutait, quoi. Sur les pratiques agricoles et de ce qui était bien et pas bien, voilà.
Quel regard vous portez maintenant sur le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, et ce réseau zones humides et les zones Natura 2000 ?
C'est quelque chose qui est très très utile, qui nous a permis de, même entre guillemets, de pas faire de bêtises sur des zones humides, par exemple, parce qu'on aurait pu faire... Sans le vouloir, faire du mal, quoi.
Alors c'est quoi, par exemple, faire une bêtise sans le vouloir ?
Je sais pas, faire un drain, faire une rigole, ou j'en sais rien. Enfin, ou des espèces protégées dans la faune qui auraient pu être détruites, quoi, sans qu'on le sache, quoi.
Pour qu'on essaye de bien comprendre comment vous avez restauré ces tourbières, on peut s'attarder un petit peu sur la restauration de la tourbière de la Blanche, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu tout le travail que vous avez fait sur cette tourbière ?
Alors, la tourbière de la Blanche, c'est la commune qui a lancé le projet. Alors, c'est pas un site Natura 2000, donc c'était vraiment une volonté de la commune, qui était propriétaire d'une partie. Et donc après, il y a l'ONF qui est propriétaire d'une autre partie, une section, et trois propriétaires privés. Et donc tout le monde s'est mis d'accord pour faire cette restauration. Et donc le conservatoire a participé aux travaux, le PNR aussi, et ça a été surtout géré par la communauté de communes Ventadour-Monédière, quoi. Et la commune.
D'après vous, qu'est-ce qui a fait qu'autant d'intervenants extérieurs, à savoir la commune de Péribélaire, le parc naturel régional de Mille Vaches, le conservatoire des espaces naturels et la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédière se sont intéressés à cette restauration de la tourbière de la Blanche ?
Alors la tourbière de la Blanche, quand le maire a lancé le projet, c'était protéger l'eau. Voilà, c'était surtout parce que c'est quand même la ressource en eau qui va jusqu'à Égletons, quoi. Et donc c'est pour ça qu'après la communauté de communes s'est greffée un peu dessus pour, par rapport à ça, quoi. C'était de préserver cette réserve en eau naturelle, quoi.
Cette restauration a permis la découverte et la redécouverte de la faune et de la flore.
Voilà, tout à fait, ouais.
Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Ben, y a eu des travaux de restauration, donc il y a eu plein de sols qui ont été coupés, débardés. Il y a eu une remise un peu en culture, avec, on a semé un peu d'herbe, un peu de céréales comme ça, et ça a poussé naturellement, quoi, pour que le site soit réouvert, quoi. Et en parallèle, ils ont fait un sentier accessible aux handicapés, avec des panneaux pour expliquer le déroulement de la tourbière et à quoi elle sert.
On va s'intéresser à ces fameuses Highland Cattle, qu'on peut traduire par bovins des Highlands, des vaches de race Highland Cattle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer, de vous lancer dans la création d'un cheptel de Highland Cattle ?
Alors au départ, c'est l'aspect, parce qu'elle me plaît.
Ah, au départ, c'est vraiment juste
ouais, c'est
un,
vraiment l'aspect, ouais.
Un coup de cœur,
Sur visuel. L'aspect visuel de la race. Et après, je pense que c'est la meilleure vache adaptée pour restaurer les tourbières, quoi. Parce qu'elle est de petite taille, très rustique. Donc je pense qu'elle peut bien se comporter dans les tourbières, quoi.
Quand vous dites de petite taille, tout le monde n'est pas éleveur. Est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec la Limousine,
après,
par exemple ?
Elles vont faire 400 kilos, contrairement à la Limousine qui va en faire 600, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc elle passera beaucoup mieux. Elle va passer partout, quoi.
Pour ce qui est de l'aspect visuel, j'encourage les auditeurs à faire quelques recherches sur internet et vous verrez qu'effectivement, ces Highland Cattle ont quelque chose de visuel, d'extrêmement attachant. Vous parlez d'un coup de cœur. Comment s'est passée votre première rencontre avec ces vaches ? Vous les avez rencontrées où et comment ?
Alors, où ? Dans des reportages au départ. Et après, justement, dans le cadre du réseau Zone Humide, il y a un éleveur qui habite pas loin à Gourdon-Murat et on a pu faire un échange. Donc on a amené ces bêtes sur les tourbières, comme ça on a pu voir comment elles réagissaient. Et du coup, là ça a été le grand coup de cœur, quoi.
Est-ce que vous avez une idée de comment ces Highland Cattle, donc Highland on l'a pas dit mais ça vient c'est des vaches qui viennent d'Écosse, comment est-ce qu'elles sont arrivées sur le plateau de Mille Vaches ? Est-ce que vous savez si elles ont traversé la Manche à la nage ? Est-ce que vous avez une idée de comment elles ont pu arriver par chez nous ?
Alors on peut imaginer qu'elles ont pris le bateau. Maintenant, l'origine de l'arrivée des Highland sur le plateau, on ne la connaît pas réellement.
Pas réellement, mais c'est des éleveurs comme nous qui ont été... qui ont accroché sur cette race et qui est arrivée comme ça, quoi.
Voilà. Maintenant, je pense que il y en a. Quand on regarde sur le plateau, il y a quand même quelques élevages, oui. Et c'est des éleveurs qui commencent à se regrouper aussi, justement par le biais du Conservatoire des espaces naturels et
du
puis
PNR,
du PNR, et qui vont peut-être continuer de se regrouper dans le cadre de cette association d'agropastoralisme qui devrait se monter.
Ça veut dire que cette vache d'origine écossaise va finir par faire partie du paysage du plateau.
On l'espère bien. C'est l'objectif.
Vous élevez à la base des limousines.
Oui.
C'est quoi pour vous l'intérêt et les objectifs de diversifier votre cheptel en gardant d'un côté les limousines et en intégrant dans ce cheptel des vaches de race Highland Cattle ?
Alors la race, c'est surtout, comme elle est très rustique, elle va se débrouiller toute seule. Et la limousine ne suffit pas pour entretenir les tourbières. Donc je cherchais une race vraiment qui se débrouille un peu toute seule, qui est juste de la surveillance pour ça, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'autonomie de cette vache par rapport à la limousine ?
Elle a moins de besoins alimentaires, on va dire, comme elle est plus petite. Donc automatiquement, elle en a moins de besoins. Et puis c'est une vraie débroussailleuse, quoi. Elle mange les arbustes, enfin les feuilles, tout, quoi.
Elle est moins difficile.
Elle est moins difficile, ouais. Elle est encore restée très très rustique. Contrairement à la limousine où je pense qu'on a perdu un petit peu en rusticité.
La limousine a pris des habitudes un peu de confort.
On l'a habituée aux bonnes choses.
Ces vaches de race Highland Cattle vont donc favoriser le maintien de l'écosystème des tourbières.
Oui.
Les vaches limousines, elles, ne suffisent pas à entretenir correctement les tourbières. C'est juste une question de poids ou c'est aussi...
Alors de poids et de période. parce que la Limousine, je la mets que de mi-juin à, bon, à part les périodes de sécheresse où on les laisse plus longtemps, mais jusqu'à fin août, début septembre, quoi. Et la Highland, elle va y rester toute l'année. On va faire tourner avec des différents paddocks, quoi, différents. Et elle doit pouvoir tourner toute l'année sur les tourbières, quoi.
C'est quoi ce que vous appelez des paddocks, différents paddocks?
Alors, différents enclos, on va dire, quoi.
D'accord. Enfin,
qui vont faire entre 10 et 5 hectares, quoi.
Quand vous dites que les vaches Highland Cattle vont rester dehors toute l'année, ça veut dire que cet hiver, par exemple, on peut imaginer voir ces vaches sous la neige
tout à fait, oui.
Sur le site de la tourbière blanche?
Elles seront peut-être dans la blanche, parce que le problème de la tourbière de la blanche, c'est qu'elle fait que 5 hectares, donc je ne peux pas les y laisser toute l'année. Donc il y en aura elles y seront qu'à certaines périodes. Mais l'autre site qui est à même pas un kilomètre, elles seront plus sur le deuxième site, quoi.
Vous parliez de la vache Limousine qui s'était un peu embourgeoisée, entre guillemets, et de ces Highland Cattle qui, elles, sont encore relativement rustiques. Comment ça s'est passé, la première rencontre entre une Highland Cattle et une Limousine? Est-ce que ça cohabite bien ensemble?
Alors justement, quand la première Highland est arrivée, parce qu'on en a acheté une au mois d'avril.
D'avril.
Au mois d'avril. Comme elle était toute seule, je l'ai mise avec des génisses Limousine. Et ça s'est très très bien passé. Bon, elles ont été un peu curieuses au départ, aussi bien l'une que les autres. Mais ça s'est très bien passé. Elles se suivent d'ailleurs très très bien, quoi.
De combien de vaches est composé votre cheptel actuel de Highland Cattle?
Alors actuellement, on a une génisse et 3 bœufs en pension. Et du coup, on a réservé 3 vaches avec 3 veaux, un taureau et un petit taurillon d'un an.
À court terme, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme cheptel de base pour commencer avec ces vaches Highland
Cattle? C'est déjà celui-là. Et après, je garderai les femelles. Et les mâles, soit on les vendra pour la reproduction ou les castrer pour faire des bœufs castrés et les vendre au bout de 4 ans. Parce qu'il faut 4 ans minimum pour faire un bœuf castré, quoi.
De quoi vous avez besoin précisément pour que le cheptel évolue dans le sens que vous souhaitez?
Des naissances, quoi.
Des naissances, tout simplement.
Et que ça se passe bien. Et que ça se passe bien, quoi. Il faut que ça évolue. Après, il ne faut pas trop non plus évoluer, parce qu'après, il y aura trop de vaches et pas assez de terrain. Puis, il faut pouvoir s'en occuper aussi comme il faut. Donc, c'est vraiment la découverte. Là, je ne sais pas, je navigue un peu à vue, quoi. Parce qu'après, il faut séparer aussi, quand on va sevrer les veaux, il faut les enlever avec des vaches. Donc, il faut faire un autre lot, quoi, de génisses ou de bœufs, quoi. Et pas les mettre ensemble. Donc, après, au niveau terrain, je ne sais pas comment je vais le gérer encore, quoi. Voilà.
Je vous posais cette question, c'est parce que vous avez lancé une campagne de crowdfunding, qu'on peut traduire en français tout simplement par financement participatif. Pourquoi avoir lancé cette campagne de financement participatif? Avec quel objectif et est-ce qu'il a été atteint? Ça fait beaucoup de questions peut-être.
Alors, pour l'historique du Cheptel Highland, ça fait donc depuis que je suis installé que j'avais ce projet. Et
donc,
tous les ans, c'était
ans.
repoussé parce que financièrement, c'était pas possible. Et il y a l'animateur du Conservatoire des espaces naturels qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas appel au crédit participatif ?» Et donc, de fil en aiguille, c'est parti comme ça, quoi. Donc, on devait le faire au niveau du parc, un crédit participatif au niveau du... faire un truc de pastoralisme.
Une association de
pastoralisme. Et du coup, comme nous, on avait avancé trop vite, donc il a fallu qu'on le fasse tout seul, quoi. Mais ça n'empêchera pas de continuer pour le faire après différemment au niveau du parc, quoi.
Alors, est-ce que c'est compliqué de mettre en place une campagne de financement participatif? Comment est-ce qu'on réfléchit à cette campagne?
Alors là, je vais laisser parler Sabine parce que c'est plutôt elle qui s'en est occupée.
Alors, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Le tout, c'est surtout d'avoir l'idée de l'écriture du projet et de mettre dans ce projet les éléments nécessaires pour qu'il y ait un intérêt pour la population que l'on a en face de nous, qui vont lire ce projet. Hein, voilà, il faut que ce soit vraiment attractif, suffisamment précis. hein, dans les objectifs, et puis aussi dans le cadre de cette campagne de financement participatif. Donc, en fait, j'ai commencé par faire une séance d'information lors d'un des petits-déj organisés par le conseil départemental, ce qui m'a permis de connaître un petit peu comment on lance une campagne de financement et puis connaître un petit peu les différentes plateformes qui existent. Donc, notre choix s'est tourné vers la plateforme Mimosa, qui en fait propose une campagne sur la base de contributions. C'est-à-dire que les personnes intéressées par le projet y contribuent et en échange, nous, dans le cadre d'un remerciement, en fait, on offre à ces personnes-là une contrepartie qui est fixée en fonction du montant de la contribution apportée. Donc j'ai envie de dire, ce qui a été le plus compliqué, c'était d'écrire ce projet et puis de trouver des contreparties qui seraient suffisamment intéressantes et attrayantes aussi pour les contributeurs. Donc voilà, donc on est parti sur la base d'une campagne de financement. L'objectif était fixé à 4 200 euros.
Comment il a été fixé cette somme ?
C'était en fait le coût des 3 vaches avec leur veau. Alors que la dépense réelle va un petit peu au-dessus de 7000 euros hein, pour monter le cheptel en totalité. On n'a pas osé demander plus au départ, parce qu'on l'avoue, hein, c'est une grande première pour nous, cette campagne de financement participatif. Donc on a préféré partir petit pour avoir la certitude d'obtenir notre objectif.
Vous étiez confiant à ce point-là ? Vous aviez la certitude ?
Pas du tout.
Voilà,
pas du tout, du tout, du tout.
Pas du tout.
Donc pour ça, et... Donc voilà, donc on a préféré fixer un objectif minimal et pouvoir augmenter au-delà, puisque l'intérêt aussi de la campagne de financement participatif, c'est que une fois qu'on a atteint les 100%, on peut passer au-delà tant que la campagne de financement n'est pas terminée. Et notre campagne était fixée à 30 jours.
Est-ce que le premier objectif de 4 200 euros a été atteint ?
Il a été atteint très très vite.
En combien de temps ?
10 jours.
Notre grande surprise.
À notre très très grande surprise. Et pour notre très très grand bonheur, en fait, au bout de 10 jours, nous avions la certitude de pouvoir acquérir les 3 vaches avec leurs 3 veaux.
Est-ce que sur cette plateforme, on a une idée d'où viennent les dons ? Est-ce que vous savez si c'est principalement des personnes qui vivent sur le plateau ou en Limousin, ou est-ce que ça a intéressé des gens un peu partout en France ?
Alors effectivement, nous avons la possibilité de savoir qui a contribué et les contributions arrivent finalement de partout en France. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Parmi les contributeurs, il y a des personnes que nous connaissons, il y a gens que nous ne connaissons absolument pas du tout et que nous avons d'ailleurs très hâte de rencontrer pour le coup, pour pouvoir parler plus librement de notre projet et de cette grande aventure dans laquelle nous nous sommes lancés.
Vous venez de l'expliquer, le premier objectif de 4 200 euros a été atteint en 10 jours pour une campagne de 30 jours, donc qui a été lancée il y a 3 semaines.
Le 28 juin, très exactement.
C'est quoi la suite maintenant de cette campagne, puisque l'objectif premier a été atteint ?
Eh bien, la suite, c'est de poursuivre. Donc 30 jours, ça veut dire que nous avons jusqu'au vendredi 29 juillet. Il nous reste donc une semaine. Aujourd'hui, la collecte a grossi, a largement grossi au-dessus des 4 200 euros, puisque en fait, sur la totalité du petit cheptel que nous souhaitions faire, il nous reste un bœuf à financer, c'est-à-dire 750 euros. Ouais.
Donc on parle d'aujourd'hui. D'un bœuf et non pas d'un taureau.
D'un bœuf, oui, c'est-à-dire voilà. Un bœuf castré qui a 2 ans. à peu près, et qui sera totalement formé, voilà, si on peut dire, d'ici 2 ans, et donc propre à la consommation. Et ce sera peut-être d'ailleurs le bœuf qui nous servira plus tard.
Ça nous servira de conclusion dans pas très très longtemps. Comment vous envisagez l'évolution du troupeau de Highland Cattle à court, moyen et long terme ? Tout à l'heure, vous parliez de navigation à vue, mais est-ce que quand même vous avez une idée de ce que pourrait être ce troupeau dans 5 ou 10 ans, par exemple ?
Oui, enfin, l'idée, ça serait de monter à une dizaine de vaches, quoi. Et voire même peut-être plus, enfin, ça dépend. Ça,
voilà. Une dizaine de vaches avec un taureau ?
Avec un taureau, oui. Donc ça va faire, après, il y aura, je ne sais pas... 3-4 bœufs par an à maturité, quoi. Ça serait l'idée.
Est-ce que vous pouvez nous présenter 3 jeunes garçons, Little Boy, Loulou et Mowgli ?
Oui.
Alors, je te laisse présenter Little Boy parce que c'est ton préféré.
Donc Little Boy est un bœuf de 2 ans. Donc il vient de producteurs qui habitent à V. Et il est assez clair, très long, avec les poils très très longs, et des cornes assez droites qui commencent à venir devant, quoi. Je peux le brosser, il se laisse faire.
On peut le caresser.
On peut le caresser, oui.
Ça fait partie des 3 bœufs qui vous ont été, prêtés, qui sont
prêtés en pension. Et du coup, on va pouvoir, grâce au crédit participatif, on va pouvoir les acheter. C'était un peu le deal au départ, quoi.
Alors justement, cette histoire de prêt, de pension, d'où viennent ces différents bœufs, vaches, taureaux de la race Highland Cattle ? Où est-ce que vous les trouvez ?
Enfin, l'origine exacte, je ne connais pas. Je sais qu'il est né en Dordogne, donc il est arrivé sur la commune de V, et maintenant il est arrivé à Péribélair, quoi.
En fait, sur l'ensemble du cheptel, on a Jolie Fleur, qui est une jeune génisse de 2 ans et demi à peu près.
Oui.
C'est celle qui est arrivée au jour d'aujourd'hui. Elle est blanche beige. Elle vient d'un élevage qui se trouve dans l'Allier. Donc les 3 bœufs arrivent de Vais. Donc ils ont tous les 3 entre 1 an et à peine et deux ans. Et les vaches qui vont arriver là avec leur veau et le taureau, eux arrivent d'un élevage situé en Creuse. Donc voilà, on a fait le choix aussi de rechercher des bêtes de différentes couleurs. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la Highland Cattle n'est pas obligatoirement rousse, comme toutes celles qu'on voit sur les photos. Il y en a de différentes couleurs, donc il y en a des blanches, vraiment pures blanches, il y en a des blancs beige, il y a des noirs, il y en a qui sont bringés, donc un peu grises. Donc l'objectif justement, c'est aussi d'avoir une représentativité des différentes couleurs de Vache Island, parce que Jacques parlait de notre objectif à long terme, qui est effectivement d'augmenter le troupeau, mais l'idée aussi, c'est d'avoir un apport touristique dans notre diversification et de pouvoir présenter aux différents promeneurs des vaches différentes.
Qui ne manqueront pas de les surprendre.
Et puis de les émerveiller, parce que très franchement, elles sont trop belles. Et nous, on n'a qu'une hâte aussi, c'est que ces jolies vaches nous donnent des veaux. Parce que les veaux, c'est des mascottes, quoi. C'est des grosses peluches. Et c'est magnifique à voir dans le paysage.
On n'en a pas beaucoup parlé, la vache Highland Cattle, c'est une race à viande. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, donc c'est bien une race à viande. Alors, qui est avec un persillé et très peu de gras, mais qui a un bon persillé, qui est assez tendre et qui a un goût spécial. Enfin, que j'avais pas l'habitude de manger, quoi. Pour en avoir goûté il n'y a pas longtemps.
Un peu plus fort que la limousine à laquelle on est habitué.
C'est ça que vous appelez le persillé ?
Voilà. Elle est plus rouge que la limousine. Elle est très tendre. Effectivement, pour avoir eu l'occasion d'y goûter, parce que faut aussi en passer par là pour pouvoir en parler. Voilà, ça se cuisine comme n'importe quelle autre viande de bœuf. Voilà, c'est le goût qui est un peu plus présent.
Ouais. La viande vient des bœufs castrés. Pour que la viande d'un bœuf arrive à maturité, il faut à peu près 4 ans. Ouais. Je me rends pas compte, j'ai aucune idée. C'est long, c'est pas long ?
C'est très long. C'est très très long.
C'est quoi la moyenne sinon normalement ?
Ben, la moyenne, ça doit être à peine 2 ans, quoi. Donc c'est le double.
C'est ce qui explique peut-être que la viande ait des qualités gustatives.
Tout à fait, oui, parce qu'elle a mis longtemps à venir à maturité, quoi.
Une fois que vous pourrez proposer de la viande, comment vous allez la commercialiser ?
Alors on veut passer par la vente directe, parce qu'il n'y a que ça qui pourra marcher, pour la valoriser, et puis qu'il y ait plus de monde qui puisse en profiter. Alors on n'a pas trop réfléchi pour le moment, comment on va le faire ?
On a 2 ans.
On a 2 ans pour se préparer. Sinon, il y a 2 projets de labo de transformation qui devraient voir le jour en Corrèze. Un sur Neuvic et un sur Nave. Et sinon, après, il y a des abattoirs. Il y a l'abattoir de Bourganeuf.
Donc voilà. Quoi. Le pôle viande,
ouais, qui, le pôle viande
qui est tout récent sur,
qui est tout récent sur Bourganeuf.
Sur Bourganeuf.
Voilà. Donc, c'est des pistes qu'on a voilà. Pour le moment. Quoi.
Et puis, la restauration. Aussi un peu la grande restauration. L'objectif, ce sera peut-être d'essayer de solliciter quelques restaurateurs, alors peut-être plutôt dans les grandes villes. Voilà.
Grandes villes du plateau ou grandes villes françaises
si on arrivait des grandes villes du plateau, ce serait magnifique. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à passer des accords avec des restaurateurs du plateau. À voir, hein. C'est des projets pour l'instant, mais ça peut être aussi aller au-delà sur Paris, Bordeaux, Toulouse, mais essayer peut-être de proposer cette viande dans les restaurants, et je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi attrayant pour un restaurateur d'avoir de la vache Highland sur sa carte.
L'idée principale étant évidemment de produire, de transformer et de commercialiser dans un circuit court et local.
Voilà.
L'idée, oui.
L'idée, c'est ça surtout.
Est-ce qu'on peut justement, vous alliez le faire tout à l'heure, parler d'un repas festif qui pourrait avoir lieu en 2020 ?
Oui, alors donc ce repas festif, eh bien, c'est, je vais dire, la contribution d'honneur, la contrepartie d'honneur plutôt, que nous avons proposée pour la campagne de financement participatif. Donc en fait, toute personne qui participe à notre projet, donc quelle que soit sa contribution, que ce soit 10, 20, 50, 200 euros, toute personne pourra participer, sera invitée à un repas festif dès que nous aurons la possibilité de leur faire goûter le premier bœuf qui sera arrivé à maturité. Donc l'objectif, c'est de réunir au maximum les gens, parce que voilà, nous, ça nous fait plaisir véritablement qu'il y a eu un tel engouement par rapport à notre projet. Et alors, l'objectif, c'est de remercier toutes ces personnes, de pouvoir avoir un moment à partager avec ces personnes.
Et qu'on leur fasse voir ce que vous... Ils ont financé ce qui est produit maintenant. Quoi,
voilà. Et leur faire goûter la viande, effectivement, pour que, eh bien, au-delà de la participation à un financement, qu'ils puissent voir aussi l'aboutissement du projet.
De l'aventure.
Oui, de l'aventure. J'ai mon agenda là, est-ce que je peux déjà noter la date, l'heure et le lieu du repas festif ?
Ça va être un peu compliqué tout de suite.
D'ici 2 ans, c'est un petit peu compliqué, mais il n'y a pas de souci, on notera.
On va peut-être passer aux infos pratiques. On rappelle que la campagne de financement participatif s'arrête vendredi prochain, le vendredi 29 juillet.
C'est ça.
À minuit ?
À minuit.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer comment on participe à cette campagne si on veut soutenir votre projet de cheptel de vaches écossaises dans les tourbières corréziennes ?
Alors, pour les gens qui ont l'informatique, il faut aller sur Internet. Mimosa, ça s'écrit M2IMOSA. On le tape dans le moteur de recherche. Le projet s'appelle Des vaches écossaises dans les tourbières corréziennes. Jacques Virol. Quand on le trouve, eh bien, j'encourage les auditeurs à lire le projet.
Qui est très bien rédigé, je vous confirme que c'est très bien rédigé, c'est très bien illustré, il y a de belles photos, on comprend tout.
En plus, voilà, merci beaucoup. Les possibilités de contribution sont indiquées sur la page d'accueil. Voilà, donc si on souhaite participer au financement, eh bien, il suffit de choisir le montant de contribution, on clique. On renseigne ses coordonnées. Ces coordonnées, là, on peut payer par carte bancaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les financements par Internet, c'est uniquement par le biais de la carte bancaire. Et donc, ça rentre dans la contribution. Pour les personnes qui ne souhaitent pas financer par le biais de la carte bancaire ou qui ne souhaitent pas passer par Internet, il est tout à fait possible de nous envoyer un chèque d'un montant correspondant à la contribution qu'ils souhaiteront. Donc, les coordonnées, c'est Jacques et Sabine Virol, Le Bourg, 19300 Perret-Bélair. Peut-être préciser, PERET-BEL-AIR. Voilà, donc nous, à réception des chèques, en fait, je les transmets à la plateforme Mimosa et ils sont introduits sur la collecte et donc informés dans la liste des contributeurs. Pour le petit plus, en plus du projet, c'est que depuis la mise en route sur la plateforme, je mets de temps en temps des petits fils d'actualité. Donc pareil, hein, il faut y aller. Il y a d'autres photos plus récentes que celles qui sont sur le projet et on y voit vraiment bien les bêtes qui vont être acquises.
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet de la radio www.radiovassivière.com dès que nous aurons mis cet entretien en ligne. Je le rappelle, vous tapez Mimosa, M2IMOSA, et le projet, c'est des vaches écossaises dans les tourbières corréziennes. J'ai tout bon ?
Impeccable.
Est-ce qu'on peut imaginer un croisement entre la vache limousine et la vache Highland Cattle pour désembourgeoiser la limousine ?
Ça pourrait se faire, mais j'en vois pas d'intérêt.
Il n'y aurait pas d'intérêt.
Non, je préfère rester en race pure, des deux côtés.
Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas évoqué un sujet ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit ?
Non, je pense qu'on a fait le tour. De ce que...
Alors Jacques et Sabine Virol, je rappelle que vous êtes éleveurs sur la commune de Perret-Bélair et que vous vous êtes lancés dans le projet de la création d'un cheptel de vaches écossaises dans les tourbières corréziennes. Et ces vaches sont de la race Highland Cattle. Merci à vous d'être venus nous présenter ce projet, pas comme les autres.
Merci à vous.
Quant à nous, on se retrouve très rapidement sur les ondes de Radio Vassivière, le 92.3 en Haute-Corrèze ou le 88.6 en Haute-Vienne et en Creuse. À très vite, bye bye.